Alors, je vais vous présenter nos disputants et Didier, tu nous contrôles hein, pour qu'on arrive bien à la. Qu'on ait le repas quand même. Donc, nous avons invité pour être avec nous, pour commenter, discuter, nous poser des questions aussi. Hein, donc, Mathieu, qui est anthropologue, directeur de recherche au CNRS, Mathieu Claverolas, pardon, j'ai oublié de dire ton nom. Au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'EHESS. Il est spécialiste, donc Mathieu, de la religiosité et des pratiques dévotionnelles. Tu as d'abord travaillé en Inde. Tu as publié l'ouvrage « Quand le temple prend vie, atmosphère et dévotion à Bénarès » en 2003. Puis en 2008, tu t'es intéressé à l'hindouisme hors de l'Inde à travers un nouveau terrain, celui de l'île Maurice. Et tu y as étudié les pratiques religieuses, je vais essayer de m'en tirer avec mes notes, les pratiques religieuses hindoues dans le contexte mauricien. Et c'est là, nous, que nous avons commencé à nous connaître et à travailler un petit peu ensemble. Donc, ces pratiques dans la plantation, la créolisation de l'hindouisme et la réinvention des liens avec l'Inde. Et tu as publié en 2017 « Quand l'hindouisme est créole, indianité et plantation à l'île Maurice » aux éditions de l'EHESS. Jean-Bernard, tu es sociologue, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, si je ne fais pas erreur, à l'EHESS également, que tu as rejoint en 2010, après avoir effectué de nombreuses missions de recherche en Suède, au Canada, en Allemagne, aux USA. J'ai repris un peu la bio, parce que moi, je te connaissais pour un autre, d'autres aspects. Je mentionne que je suis très heureuse de retrouver Jean-Bernard parce qu'il a été, il a passé un an à Bordeaux, hein, c'est ça, il y a plus de 10 ans maintenant, hein, 15 ans peut-être. Hein, voilà. Donc de 2002 à 2008, tu as occupé les responsabilités de tes directeurs ou directeur adjoint au CODESRIA, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Je vous épargne l'anagramme en anglais. Tes travaux portent sur la sociologie du monde ouvrier, l'urbanité, l'épistémologie, la méthodologie des sciences sociales. Moi, je me souviens de toi en tant que spécialiste de Norbert Elias. Tu travailles sur la domination impériale, les exercices indigènes de la violence, l'atelier des images, rangement des corps et des objets dans l'espace photographique africain, ce qui peut intéresser Nicolas. Et tu es toi aussi auteur d'une liste impressionnante d'ouvrages, d'articles qui couvrent des domaines très divers. Bon, je cite entre autres identité visuelle en Afrique, art photographique en Afrique, technique esthétique dans la photographie de studio au Burkina Faso, violence et communautés en Afrique noire, etc., etc. Voilà, je vous laisse la parole.
C'est gentil ou je ne sais pas si c'est gentil.
Je reste avec vous.
C'est gentil, Christine, ça. Oui, donc merci Christine pour l'invitation. Je ne suis pas persuadé de la façon dont il faut s'y prendre, donc je vais me lancer, hein, puis on va voir.
Des commentaires, okay. Et après, moi, je ne veux pas que les personnes aient posé des questions pas frustrées.
C'est ça, ouais. Bon, y a différentes choses. Déjà, donc vous avez compris avec la présentation de Christine, que mon regard, mes intérêts sont un petit peu décalés, à la fois par rapport à la Caraïbe, puisque moi, ce sera plutôt l'Inde et l'océan Indien. Thématiquement aussi, je suis très focalisé sur le religieux, donc c'est à nouveau un regard un petit peu décalé. Et puis, pour ce qui est de la matrice de l'esclavage, c'est un peu plus compliqué du côté de l'océan Indien et de l'île Maurice, puisque la matrice est bel et bien là, mais elle peut être questionnée par d'autres événements, d'autres strates, voire d'autres matrices, finalement. Donc, toutes choses qui, peut-être, sont plus simples et plus intéressantes à évoquer dans la discussion de cet après-midi, que ce soit le côté comparaison ou mise en perspective, ou ce que, moi, ça m'évoque, tout ça, par rapport à l'océan Indien, ou le côté aussi religieux qui m'intéresse et des formations personnelles sans doute, mais que je trouve assez marquant par son absence en général dans ces discussions. Et à nouveau aujourd'hui, je me demande ce qu'on pourrait en faire si on l'introduisait. Donc on pourra voir ça cet après-midi. J'ai été très intéressé par les deux interventions de ce matin, plus l'intervention également de Nicolas. Je vous remercie vraiment. Je ne vais pas pouvoir faire un panorama exhaustif de ce qui m'a intéressé. J'aurais voulu rebondir déjà sur un aspect particulier qui me semble un angle d'attaque intéressant, parce que ça reprend la façon dont j'ai pensé les choses quand quand j'ai pris connaissance de cette journée d'études. Et je me suis mis à réfléchir comme ça sur cette idée de matrice et puis d'événements, de traces. J'ai bien sûr pensé à comment tous ces événements pouvaient s'intégrer, revitaliser ou peut-être transgresser ou peut-être faire évoluer la matrice. J'ai pensé à ces différentes façons des événements de se mettre en relation avec la matrice. Mais en fait, assez rapidement, je me suis posé des questions sur cette matrice, en fait, et se demander quel est finalement le problème que peut poser cette matrice dans notre réflexion. C'est-à-dire que ça peut être assez rapidement quelque chose d'envahissant, la référence à une matrice, en tout cas une matrice qui serait exclusive, et une matrice qui, quelque part, pour caricaturer, ne ferait que se répéter ou que se continuer, même si elle se transforme, même si elle peut, dans la réactualisation, se faire autre à chaque fois. Enfin, la référence à une matrice et une matrice exclusive, donc une matrice un petit peu définitive, me pose un certain nombre de questions. En plus, j'ai eu l'impression que dans les deux premières interventions de Charles et de Maud, finalement, la matrice est éminemment problématique. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement de quelle matrice on parle, et je pense qu'on perdrait de la richesse de ces terrains si on restait sur une seule matrice. Dans le cadre du bagne, par exemple, on reconnaît une matrice coloniale très intéressante. J'ai adoré tout ce qui était la perspective impériale dont parlait Didier également, quoi. Mais la matrice coloniale, ce n'est pas du tout pour remettre en cause ça. La matrice, elle est là, elle est intéressante et riche de perspectives et d'analyses. Mais d'autres matrices pourraient être envisagées en même temps. Je pense par exemple à tout ce qui est les structures carcérales en général, que je ne connais absolument pas. Je ne connais pas l'histoire de ces structures-là, que ce soit avant la colonisation, pendant la colonisation ou dans le postcolonial. Et je me suis posé la question de comment s'intégrait cette histoire du bagne, cette structure d'un bagne extraterritorial, enfin en dehors de la métropole, et comment ça s'intégrait par rapport à des structures finalement carcérales qui existaient, je le sais bien, à la fois des bagnes sur le territoire, comme tu as pu le dire, sur le territoire métropolitain, mais également toutes ces relations avec d'autres bagnes, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Ça m'intéresse particulièrement. Et puis, peut-être aussi, à nouveau, dans un souci de faire des liens un peu transversaux, d'autres institutions existent également, carcérales également, mais je pensais aux institutions psychiatriques également, qui ont eu un peu aussi cette tentation, enfin que les autorités ont eu la tentation à nouveau de mettre en dehors de certains territoires. Donc on retrouve certaines dynamiques ou certains enjeux dans d'autres institutions que le bagne. Donc bagne, institution psychiatrique, et puis on sait que la plantation a aussi pu être comparée, justement mise en relation, que ce soit avec un bagne ou avec des institutions psychiatriques fermées, closes, etc. Donc tout ça m'intéresse beaucoup, et je me demande par exemple si, parce qu'on va parler de la plantation comme d'un bagne, mais finalement, est-ce que du point de vue du bagne, est-ce qu'il y a des comparaisons qui sont faites dans les récits, dans les narrations par rapport à la plantation, par rapport à l'esclavage? Est-ce que le bagnard, lui, est comparé à l'esclave, ou est-ce que c'est seulement l'esclave qui est comparé au bagnard, etc. Voilà, beaucoup d'autres choses, Charles, m'ont intéressé dans ta présentation, mais je vais m'arrêter à ce point-là pour garder un petit peu de temps. Ça, c'est le temps qui me reste. OK. Donc, je vais juste... D'accord, bien sûr. Ouais. Je mentionne juste, avant de passer un peu de temps à mon collègue, je mentionne juste ce qui m'a énormément intéressé dans la présentation de Maud et qu'il faudra rediscuter, à mon avis, et qui est lié avec cette idée-là, c'est cette idée de la spatialité des mémoires et d'une mémoire qui serait de l'ordre de l'intime, en fait, c'est ça, qui n'est pas la mémoire collective dont tu as parlé. Et sans rentrer énormément dans les détails, ce qui m'intéresse aussi, c'est ces deux méthodologies de terrain qu'on imagine assez bien, même si tu ne les as pas décrites, mais moi, ça me passionnerait d'en savoir plus. Tu as décrit comment, dans les cours des maisons, il pouvait y avoir des mémoires collectives qui émergeaient dans des mises en relation des différents acteurs, c'est ça, donc en direct, en quelque sorte. Donc on imagine bien la richesse, l'intérêt, et en même temps la difficulté du rôle de l'ethnographe dans ce cadre-là. Et je me demandais comment est-ce qu'on récoltait, entre guillemets, comment est-ce qu'on avait accès aux mémoires intimes, par contre, dans les paysages. Ça m'intéresse énormément. Et le décalage qu'il y avait entre ces différents types de mémoires, du coup, est-ce que la mémoire intime est également performative ou est-ce qu'elle reste vraiment dans le domaine du privé ? Toute une série de questions qui se déclinent à partir de cette opposition entre une mémoire intime et une mémoire collective que je trouve passionnante. Merci.
Pardon d'être...
Ah oui, d'accord. Oui, vas-y. Oui, je tenais à vous remercier parce que depuis ce matin, j'ai pris des notes, j'ai beaucoup appris. Et il y a des choses, pas du tout mon champ, comme vous l'avez c'est bien dit, mais c'est très difficile de refuser l'invitation de ma marraine. Donc, mais je vois que, comme toujours, l'incitation a été fluctueuse. Donc, je te remercie, Christine, de m'avoir fait venir pour assister à ces présentations qui sont vraiment très riches. Ceci dit, il y a deux ou trois éléments, comme on n'a pas beaucoup de temps, que j'aimerais soulever et peut-être engager une discussion avec vous. Le premier élément, qui me semble central, c'est la question de la mémoire. Alors, on a tout de suite lié mémoire et lieu, comme s'il y avait un lien obligé entre le lieu et la mémoire, alors qu'il faudrait peut-être sans doute changer de focale, puisque le lieu lui-même n'est jamais neutre, en physique comme dans les sciences sociales, et que ce qui donne l'identité du lieu, ce sont ses coordonnées. Donc ce qui nous concerne, ce sont les événements qui s'y déroulent. Or, on sait que les événements ne sont jamais des événements partagés par tous. C'est de la sélection sociale. Or, cette sélection sociale-là, manifestement, elle devrait être discutée pour comprendre dans quel sens ce périmètre du souvenir, si je veux dire, ce périmètre du souvenir-là est institué. Je dis institué pour ne pas dire accepté. Parce qu'une chose est d'instituer par un petit groupe ou par des collaborateurs externes ou internes, je ne sais pas savoir. Et une autre chose, c'est de comprendre, de dire que ça appartient à tous. Voilà. Ça, c'est un mot de légitimation qui est souvent mal questionné. En ce qui nous concerne, par exemple, là, pour le bagne, par exemple, la première réaction que j'ai eue, c'est très, très intéressant de suivre ça. J'ai lu beaucoup de romans et de récits que vous avez indiqués. Et c'est de comprendre pourquoi, de quelle manière, dans une forêt, enfin, dans un lieu comme la Guyane, le bagne devient un lieu de mémoire. Et c'est le lieu de mémoire de qui ? Voilà, là, à chaque fois, je me posais la question, il va peut-être nous dire c'est qui, ça s'adresse à qui. Alors, ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est une mémoire française ou bien c'est une mémoire guyanaise? Alors là, c'est un vrai problème. Et tant qu'on n'a pas statué sur cette mémoire-là, enfin, sur cette question, c'est compliqué. C'est la même chose c'est la même question qu'on adresse à Nora, hein. On sait très bien que quand les Noras affirment un lieu de mémoire, effectivement, ils affirment un lieu de moi à partir d'un point. Comme vous savez, le point de vue qu'est l'objet et le point de vue de Nora et de ses comparses, c'est le récit, le roman français, comme vous avez dit. Et ce roman français est largement blanchisé. Depuis, pas maintenant, hein, depuis toujours. Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas aller très loin, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les unités étaient blanchies. Il y a plein de choses comme ça qui mettaient en œuvre, justement, une façon de dire, bon, ce périmètre-là, il a telle ou telle caractéristique et nous tenons à le garder. Et peut-être même, vous l'avez un peu cité, mais pourquoi ces bouquins sur le lieu de la mémoire? C'est une réponse à quelque chose. C'est une réponse à une sorte d'universalisme critiqué par Nora et les autres, qui est peut-être de gauche. Voilà, donc il y a tout un enjeu qu'il faut discuter avant d'user même du mot, d'user du mot, parce qu'il est très chargé comme mot. Parce qu'en fait, Alva qui a été cité par notre ami tout à l'heure, Alva qui dit, mais en fait, quand on parle de la mémoire, c'est que c'est une question que les autres vous posent à chaque fois. C'est les autres qui vous disent, ah mais tiens, et puis vous répondez, vous dites, ah oui, c'est... Alors, le problème, c'est de savoir, les autres, c'est qui, et vous, c'est qui. Voilà. Quel est le moment où on se dit, on se constitue en tant que groupe, et Alvaf le dit aussi, que pour que cette mémoire-là existe, la mémoire collective, il dit, c'est le groupe qui se regarde à l'intérieur, qui se regarde de l'intérieur. Mais s'il se regarde de l'intérieur, il faut qu'il sache se distinguer. Voilà. Et quelles sont les modalités de la distinction et justement de l'unité, hein, parce que la distinction, ce n'est pas forcément le rejet, mais c'est une façon aussi de consolider ce qui est le groupe. Voilà, Donc, il y a vraiment une discussion à faire. Et j'avais pensé aussi, en vous écoutant, sur le bail, mais au fond, si on considère que le bail, c'est une science de mémoire, on peut tout à fait accepter cela, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sciences concurrentes dans la même foulée, dans le même engagement impérial? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et s'il y en a d'autres, pourquoi cet éventail-là, il y a cette séance-là? Voilà. Il faut qu'on choisisse deux. Ça, c'est du côté impérial. Mais de l'autre côté, on peut imaginer aussi que la présence, j'ai dit la présence, pour être neutre aussi, pour ne pas dire intervention, la présence de cet élément-là, impérial, suscite d'autres choses. Et il y a une autre façon de lire cette présence-là, d'interpréter, même les cailloux, on les interprète différemment. Donc le problème, c'est ça. Si on veut faire une science de la mémoire, est-ce que c'est une façon de casser, est-ce qu'on aurait intérêt à casser l'élan impérial et on le remplacerait par quoi? Est-ce qu'on peut dire que, je prends le mot des auteurs que vous avez cités là tout à l'heure, est-ce que s'il s'agit d'un universalisme, je ne sais pas de quelle mémoire universelle, si c'est une mémoire partagée par tous, si le tous est large, quoi, je veux dire, est-ce que ce n'est pas une excroissance d'une minorité, d'un singulier? Voilà. Et est-ce que cette singularité-là est légitime? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ça. Donc, il y a vraiment un truc, quelque chose à questionner. Et ça m'a vraiment incité à penser ça de cette façon. Voilà, toujours sur les questions de mémoire. Voilà, je vais finir parce que là, quelque chose qui m'avait frappé aussi, vous avez parlé de tourisme. Alors, il y a vraiment un truc qui est assez étonnant, que ce mot tourisme-là soit accolé à la mémoire. C'est-à-dire un aspect, une attitude ludique, qui se colle à une attitude, disons, civique. Voilà, donc je me demande, non, parce que ça m'a questionné sur le statut de l'objet lui-même. Voilà, est-ce que ce statut-là n'a pas implosé, quoi? Parce que, effectivement, si le statut est resté dans la commémoration, c'est quasiment de la religion, hein. C'est pas de la mythe, du mythe seulement, mais c'est de la religion, donc de la déférence. Donc, en fait, ce petit caillou, si je veux dire, devient une sorte de vicaire de la République ou de la nation. un délégué actif de la nation. Donc, alors, si c'est le cas, est-ce qu'on peut en jouer? Alors, est-ce qu'on peut faire une rêve partie aux Invalides? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc, il y a vraiment une question à se poser. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, j'imagine. Je vais aller vite. Voilà. C'est aussi là, c'est une des questions là qui. Oui, voilà, de sur le la Casal, voilà, c'est ça. Il y a deux choses. J'ai l'impression qu'il y a des échelles. Il y a des échelles d'interprétation. Et pour peut-être le socle de l'interprétation sur elle, la fragmentation. La différence, les différences qui pouvaient exister dans la société même avant l'événement. C'est-à-dire que, enfin, vous n'avez pas eu le temps sûrement d'aller dans les détails, mais je me suis demandé, mais au fond, qu'est-ce qui se passait dans ce lieu-là, dans ces villages-là, avant? Est-ce qu'il y avait un groupe social? Est-ce qu'il y avait des clivages? Qu'est-ce que c'est, quoi, comme société? Et justement, parce que l'événement que vous soulignez là, comme dans toutes les mémoires, comme la guerre de 14 ici, ça crée une rupture entre ce qui est le passé, les activités qui sont dans le passé, y compris les individus, et ce qui se construit maintenant. Donc, cette translation-là crée aussi les enjeux de l'interprétation de l'événement lui-même. Donc là, ça pose un problème. Si on ne connaît pas les enjeux du passé, on a du mal à, puisque la mémoire-là va aller chercher... Comme on dit en Afrique, il va aller chercher son bois dans la forêt. Quand il va chercher dans la forêt, il cherche le bois qui l'intéresse. Donc, ça va être pareil. Il va aller puiser dans des éléments qui l'intéressent. Donc, je me suis posé la question de savoir, pour comprendre la rupture, il faut comprendre la longue durée, en gros. Et il y a un des éléments que vous avez souligné, que mon voisin a repris tout à l'heure, sur le subjectif individualisé et le collectif. Je me demande aussi si ceci ne rentre pas en ligne du compte de la construction même de la mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas, je parlais tout à l'heure du périmètre, parce que c'est comme si c'était une frontière symbolique et que pour rentrer, il faut se payer une douane, quoi, des taxes de douane pour y rentrer. Et dans quelles conditions une mémoire individualisée, une mémoire privée, puisque ça existe, hein, ça c'est sûr, ça existe. Et comment ces mémoires-là peuvent entrer dans le domaine commun, dans le domaine collectif? Alors, quelles sont les conditions de cette translation, de ce passage-là? Alors, pour la photo, j'adore la photo, donc vous avez. Mais la question que je vais vous poser, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de temps, la question c'est de savoir est-ce que vous pourriez faire cette photo. Ce bouquin sans le discours, sans les textes. Est-ce qu'il est possible, dans le cas que vous avez vécu, d'instituer une narration exclusivement visuelle pour le cas qui... Merci beaucoup. Et merci encore de m'avoir invité.
Alors, pour éviter toute frustration, voilà ce que nous voilà. On va faire comme ça. Nicolas qui va nous quitter pour cet après-midi pour répondre à la question précise. Maude et Charles, je vous propose de garder en mémoire le débat qui vient d'être entamé. Cet après-midi, on va être moins stressé. Et j'ai vu énormément l'intervention de Nicolas. On va être beaucoup moins stressé, on pourra même déborder. On pourra rester là jusqu'à 18h, 18h30, donc c'est bien. Donc vous aurez le temps d'un vrai débat, parce que c'est le but de notre journée aussi, d'avoir un véritable échange, et il y aura eu les deux autres interventions. D'accord. Donc Nicolas, tu réponds, on se laisse et on se retrouve à 14h30 avec donc tout le monde, et la discussion sera vraiment générale. D'accord. Avec vos commentaires des deux autres interventions. D'accord. Et mademoiselle, je sais pas. Ah, bah, posez-la.
fait.
Soit vert.
On l'a entendu quand même.
C'est bon,
on l'a entendu. On l'a entendu.
Oui, alors là, je réponds d'abord à la première question. Ça marche?
Oui. Oui.
Dans le cas de alors, le travail, un travail photographique sur la mémoire, c'est aussi un travail, comme je vous disais, aussi sur l'absence de mémoire. Donc, en parlant de mémoire visuelle, de mémoire qu'on peut matérialiser. Mmh. Et donc, évidemment, dans le cas des Casals notamment, on était confronté aussi à ce vide de mémoire matérielle. Et du coup, le récit, l'oralité, joue un rôle fondamental. D'ailleurs, c'était un des présumés de ce travail, c'était de faire dialoguer les textes, les extraits d'interview, mais aussi les extraits de Jacques Roumain, le gouverneur de la Rosée, avec les photographies. Tout cela dans le but, pas de faire un inventaire ou une description, une analyse de la mémoire de Casals, mais vraiment de suggérer la mémoire. Et d'ailleurs, quand on fait un travail photographique sur la mémoire, on peut utiliser des moyens différents. Là, c'est de la documentation. Donc, on peut documenter, faire le portrait d'un témoin. Ça, c'est il a un rapport strict à la réalité. Donc, c'est une sorte de document. Mais on peut aussi suggérer la mémoire. Donc, la mémoire, on la suggère à travers des stratagèmes comme, justement, photographier des objets qui n'ont pas forcément un lien direct avec la mémoire du massacre, mais qui ont un lien, par contre, direct avec le quotidien. C'est aussi pour reconstituer le contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Donc, ça joue sur des niveaux différents. Donc, les textes, en tout cas, ils ont un rôle fondamental. Et d'ailleurs, aussi, dans le projet que je mène depuis plusieurs années sur la mémoire de l'esclavage colonial, au-delà, derrière les photos, il y a toujours des textes qui vont interagir avec les photos et qui jouent un rôle autonome, ce qui sont très importants. Ce n'est pas juste un complément, ce n'est pas juste, ils ne sont pas juste illustratives de la photographie, pour un cas, c'est le contraire, mais c'est vraiment des éléments qui interagissent entre eux et qui donc, tous les deux, ils définissent après le récit. Et pour répondre à ta question, comme je disais, la parole des femmes à Casals, mais je ne pense pas seulement à Casals, mais là on a travaillé sur cette communauté, c'est une parole silencieuse. Donc ça, on est vraiment confronté un peu à ce silence-là. Et aussi les femmes, ce n'est pas, comme il disait aussi, il me semble, Maude, ça ne fait pas longtemps que les femmes, elles ont aussi la parole dans le cadre de ce récit. Et des témoignages. Avant, c'était les hommes qui s'exprimaient. Mais même à Casals, on a toujours remarqué qu'en fait, c'est les hommes qui prenaient d'abord qui avaient la parole, en tout cas, sur la mémoire commune de Casals. Et on a rapproché, du coup, les femmes. On a toujours gardé ça en tête. C'était, pour nous, c'était une évidence d'impliquer les femmes. Donc, on a réussi à impliquer des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont refusé, donc évidemment on ne les a pas obligés à témoigner, mais il y a aussi des femmes qui ont accepté la démarche et qui ont désiré intégrer le projet, et c'est les femmes qui apparaissent dans le livre. Donc on a quand même fait cette démarche d'aller vers les femmes, mais il y a des femmes qui ont refusé. Et en fait, pour des questions aussi différentes, aussi liées aussi au statut de la femme à Casals, mais ça nous est arrivé, donc on a dû se confronter aussi avec ça.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure j'ai fait allusion au reportage fait par Radio Haïti Inter en 86, et donc qui sont disponibles, qui ont été enregistrés évidemment, qui ont été diffusés à la radio, et en fait ce sont des témoignages de femmes. Alors c'est intéressant, parce que moi j'ai retrouvé la femme qui avait témoigné à la radio en 86, et elle me livre le même propos. C'est intéressant. Voilà, comme cet immobilisme parfois du récit, parce qu'il a été, selon moi, conforté collectivement. Et moi je pense que c'est à creuser, cette question je pense que les femmes, elles parlent. Mais encore une fois, et peut-être ça rejoint la question plus méthodologique posée par Mathieu, c'est la question du terrain, finalement. C'est la question comment on fait les enquêtes, comment on accède à la parole de l'autre. Bon, après, c'est, évidemment, notre travail n'est pas le même. Mais Moi, je ne crois pas que les femmes ne parlent pas, au contraire. Et je ne pense pas qu'il faille aller les chercher. Je ne crois pas. Non. Mais bon, c'est intéressant, ces deux, justement. L'intérêt, c'est ça, c'est les différences. Hein.
C'est plus compliqué que ça.
Oui. Oui, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas parler. C'est pas pareil. C'est peut-être deux sphères de parole. Deux sphères de parole, mais il n'y en a pas une qui nécessairement a un poids supérieur à l'autre. En fait, elles s'éprouvent pas, elles se vivent pas au même moment, de la même manière. Mais pour autant, peut-être la hiérarchie, c'est nous qui la projetons, je crois.